C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur, Ridley Scott, né en 1937. Œuvre, Thelma et Louise, Thelma and Louise, film 1991, sur un scénario de Cali Coury. Personnage, Thelma Dickinson, interprétée par Gina Davis, et Louise Sawyer, interprétée par Susan Sarandon. Il y avait eu Butch Cassidy et Harry Longobo, les pilleurs de train de Butch Cassidy et le Kid. Il y avait eu Bonnie Parker et Clyde Barrow, les gangsters de Bonnie and Clyde. Deux hommes, un homme et une femme. Il a fallu le film Thelma et Louise, en 1991, pour que la fiction nous propose deux femmes ensemble, deux hors-la-loi de sexe féminin, se mettant hors-la-loi pour des raisons bien différentes des quatre autres, inverses même, car si elles pratiquent la violence, c'est qu'elles l'ont subie. Il n'est pas si fréquent qu'un cinéaste commercial marque les esprits par un film inventif, ayant créé un genre et restant dans la mémoire des spectateurs, sinon des cinéphiles. Ridley Scott a réussi cela avec deux films, je crois, Blade Runner et Thelma et Louise. On pourrait dire que c'est en partie pour une mauvaise raison, une certaine démagogie esthétisante. Scott est un ancien publicitaire et ses deux films ont par instant une joliesse facile de shooting de mode. Oh, des tours à néon asiatiques, oh, les déserts rouges du sud des États-Unis. Il y a, pour Thelma et Louise, une bien meilleure raison, c'est que c'est le film qui a fait trouver inadmissible une certaine vulgarité machiste sur laquelle on fermait jusque-là les yeux. Une excellente raison supplémentaire à noter dans nos temps, par moments rudimentaires, où on voudrait que les femmes aient seules le droit de parler des femmes, ou les blagues des blagues et ainsi de suite, c'est que c'est un film réalisé par un homme, d'après le scénario d'une femme. Les sujets n'appartiennent à personne, et si un film est bon, il pourrait avoir été réalisé par une plante verte. Thelma et Louise est si connue qu'il a donné lieu à des expressions courantes. Quand il est question de deux femmes déchaînées, on dit souvent « c'est Thelma et Louise ». Quand on est en voiture au bord d'une falaise, il y a souvent un petit malin pour dire « on fait Thelma et Louise ». C'est comme un seul nom, trois mots en un, Thelma et Louise. Ce qui ne serait d'ailleurs pas si faux, car c'est à deux que Thelma et Louise font des bêtises tragiques, l'une à cause de l'autre et l'autre de l'une. Une preuve de l'influence des personnages sur nos vies, c'est que, lors de la sortie du film, les deux actrices ont fait la couverture de Time Magazine avec, non pas leur nom de personne, Sarandon et Davis, mais le nom de leur personnage, Thelma et Louise. Deux personnages qui ont été très attaqués au moment de la sortie du film, et ceci qui s'est passé il y a 29 ans a une résonance aujourd'hui où les susceptibles sont à l'attaque contre d'autres personnages, d'autres façons de raconter, mais toujours contre la singularité de la fiction. Ce que les susceptibles ne comprennent pas ou font semblant de ne pas comprendre, c'est qu'un personnage n'est pas la réduction d'une essentialisation. Qui sont Thelma Dickinson et Louise Sawyer, les héroïnes de Thelma et Louise? Pour ce deuxième volet du diptyque des personnages attaqués par les susceptibles, je reçois pour en parler Florence Colombani, critique de cinéma au Point, dont le dernier livre est Les Indomptables, chez Fayard. Florence Colombani, dites-moi à quoi ressemblent physiquement cette Thelma et cette Louise qui ont respectivement 27 et 22 ans, si je ne me trompe pas, au moment de l'aventure.
Alors Thelma a une cascade de cheveux blonds, elle a la bouche très pulpeuse, elle a les yeux très noirs, elle a un physique marquant, assez hollywoodien, je dirais, dans sa beauté, son glamour, son sex appeal. Et c'est donc Gina Davis que les spectateurs connaissent déjà parce qu'ils l'ont déjà vu dans La Mouche de Cronenberg au moment où le film de Ridley Scott sort. Louise, c'est Susan Sarandon qui a des cheveux très bouclés, des cheveux roux, des grands yeux un peu à la Bette Davis, des grands yeux un peu globuleux, très avec un regard très fort, qui sont marrons. Et elle a un style beaucoup plus contenu, une façon de bouger qui nous indique tout de suite que c'est quelqu'un qui sûrement a vécu des choses douloureuses dans son passé et qui est donc toujours en mode d'autoprotection.
Sarandon, au moment du film, était plus connue, je crois, que Gina Davis et avait été déjà marquée par un certain type de personnage, non ?
Oui, Susan Sarandon, c'était vraiment une actrice qui était associée à un cinéma d'auteur très intelligent et en même temps à des rôles un peu sulfureux. Un peu l'équivalent d'une Jeanne Moreau aux États-Unis.
Alors Louise est serveuse de bar. On voit bien dès le début qu'il y a une certaine indépendance d'esprit, c'est qu'elle fume en travaillant. Tout le monde fumait à l'époque, mais déjà c'est un signe. Et Et Thelma, elle, est une femme au foyer ?
Oui, elle est femme au foyer d'un foyer bien malheureux, avec un mari épouvantable qui lui crie dessus dès qu'elle apparaît, qui prend très au sérieux sa propre carrière, mais pas du tout au sérieux les aspirations de sa femme. Alors, on sait qu'il est manager d'un garage, enfin plutôt d'un commerce de voitures. Et qui trouve que ce rôle est très important et l'oblige à être souvent absent le soir. On soupçonne des infidélités ou en tout cas des soirées très arrosées avec des collègues.
Il est très mal embouché.
Il est très mal embouché, toujours de très mauvais poils et surtout prompt à l'insulte. Et pas vraiment au coup, mais enfin on sent que ça pourrait venir.
Alors Thelma est assez coincée, appliquée, peureuse. On apprendra plus tard dans le film qu'elle s'est mariée à 18 ans. Donc il y a une part un peu puérile dans son personnage.
Oui, c'est un peu une enfant. Ça m'a frappée en revoyant le film, comme elle transporte quelque chose de Marilyn Monroe dans son innocence blessée, à la fois ce mélange
d'ingénuité
et d'érotisme et cette capacité à avoir toujours confiance, une confiance éperdue dans l'autre qui ne lui amène que des ennuis. Et c'est ça qui va se renverser pendant le film, bien sûr.
Et donc un jour, elle décide de prendre 2 jours de vacances en fille, toutes les deux, toutes seules. C'est l'argument très simple de départ.
Oui, le point de départ, c'est vraiment, comme vous le disiez, un film de potes où on part en voyage ensemble. C'est ça le début. C'est Louise qui a accès à une maison, une petite maison sans prétention, où elle veut aller pêcher, disent-elles, enfin en tout cas passer 2 jours avec sa copine Thelma. C'est pas si simple parce que Thelma doit s'extirper des griffes de son mari qui n'est pas du genre à la laisser faire ce qu'elle veut. Donc il y a déjà un peu cet enjeu au début. Est-ce que Thelma va réussir à partir? Et elles partent en voiture et là c'est le début du road movie, et c'est la formidable liberté de la voiture qui éclate tout de suite.
Elle part sans l'avoir dit à son mari.
Elle part en cachette, voilà.
Elle
n'ose pas le dire.
Et alors au début, c'est rieur, c'est espiègle, elle s'amuse, elle sent en voiture, et puis ça dégénère très 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 vite. En particulier, c'est une chose importante dans le film, à cause de l'alcool.
Oui, Thelma, donc, ayant commis pour la première fois un acte de liberté vis-à-vis de ce mari très contraignant, on la sent enivrée par sa propre audace et alors il lui faut de l'alcool pour se sentir sans doute plus légère avec cette audace qu'elle a eue. Donc elle boit tout de suite beaucoup, elle s'arrête dans un bar. D'ailleurs, Louise n'est pas tout à fait partante au début, mais sur l'insistance de Thelma, elle s'arrête, donc elle boit. Et c'est là que le traditionnel dragueur de bar intervient et veut danser avec Thelma, insiste beaucoup et se révèle un violeur potentiel dans le parking quelques verres plus tard.
Il tente même de violer.
Il tente de violer Thelma et c'est là que ça bascule vraiment puisque Louise, pour la défendre, et parce qu'elle se fait insulter aussi par ce sinistre personnage, le tue avec un revolver que Thelma a emporté en disant qu'elle ne savait pas s'en servir, mais qu'elle le prenait au cas où elle ferait des mauvaises rencontres. Et il y a une petite blague sur « on pourrait rencontrer des ours puisqu'on va en pleine nature ». Finalement, elles vont rencontrer des tas d'ours, mais ce ne sont pas des animaux.
Alors là se passe le moment où il faut décider de croire le film. C'est-à-dire que Louise dit « allez à la police, mais qui nous croira ?» Donc il faut accepter qu'elle fasse ça, qui est peut-être un peu bizarre.
D'ailleurs, elle fait ça pour des raisons qui sont très, enfin qui résonnent beaucoup avec notre époque, parce que ce que dit Louise, c'est que on ne croira jamais que c'était de l'autodéfense, parce que tout le nightclub a vu Thelma danser collée,
un peu saoul, un peu.
Voilà, ouais. Et puis danser de façon très lascive avec cet homme, et que donc on ne croira pas que c'était une agression, cette tentative de viol. Et donc là, on touche à un point qui va revenir comme un leitmotiv dans le film, qui est cette question de la violence sexuelle, d'une société dominée par des hommes, tenue par des hommes, et où la parole des femmes n'est pas entendue.
Alors, la responsabilité a de l'importance au départ, et puis tout se modifie, s'empile même sans discontinuer, et modifie même la notion de responsabilité. C'est-à-dire qu'elles font ça, puis elles repartent sur la route, et c'est un peu comme si rien ne s'était passé. Elles essaient de s'étourdir presque en oubliant, mais quelque chose arrive et qui est l'institution qui, elle, ne lâche pas les origines, c'est la police.
La police est tout de suite sur l'affaire, en la personne d'Harvey Keitel, qui joue le policier chargé de l'enquête, qui va très vite être un peu le relais du spectateur, puisqu'il développe une tendresse coupable, vu son rôle de policier, pour ces deux femmes. Et il a tendance à vouloir les aider au lieu de les traquer. Simplement, il n'y a pas que lui, il y a aussi tout l'appareil d'État qui se met en branle. Il faut dire aussi qu'il y a la question soulevée par le road movie du FBI, donc du fait qu'on est dans un pays où il y a différents États, différentes législations, mais que si on est recherché par le FBI, alors on est recherché partout. Et Thelma et Louise, puisqu'elles ont tout à coup ce grand sentiment de liberté, parce qu'elles ont brisé un tabou en tuant cet homme au départ, elles vont braver tous les interdits, y compris traverser les frontières entre les États sans aucun problème.
Alors, vous l'évoquiez au début, Thelma est assez passive, elle fait même une cascade de sottises, n'entrant pas dans les détails, alors que Louise est celle qui réfléchit, et puis, petit à petit, sans s'inverser, ça fusionne.
Oui, c'est très beau dans le film, ce rapport de perméabilité entre les deux femmes. Les qualités de l'une deviennent celles de l'autre, les moments, les aspirations de l'une deviennent celles de l'autre aussi.
Et de quelle façon ?
Parce que le personnage de Thelma, au départ, a une vision de la vie qui est totalement en décalage avec celle de Louise. Et à cause des expériences partagées sur cette petite durée, parce que le film se passe en 72 heures, mais sur cette courte durée, le fait d'avoir ce quotidien partagé fait que leurs visions se rejoignent au point que, à la fin, avec ce grand acte connu, enfin cette scène un peu iconique qui est la scène du Grand Canyon à la fin, l'idée vient de Thelma, alors qu'on aurait cru
si par hasard, si par hasard les gens ne la sauraient pas, elle est si connue, mais dites-nous ce qui se passe. Et donc la fin, les policiers arrivent à les retrouver.
Voilà, elles sont au bord d'une falaise du Grand Canyon, la police arrive, il y a 10 voitures de police, il y a des hélicoptères, enfin elles sont vraiment traquées elles devraient se rendre parce qu'il n'y a que ça à faire, et elles choisissent de, comme dit Thelma, continuer la route, et ça veut dire plonger dans le vide. Mais un arrêt sur image de Ridley Scott immobilise la voiture en suspension, et donc on ne voit pas cette fin comme une mort tragique, mais plutôt comme un ultime pied de nez à l'institution.
Et d'ailleurs, c'est celle qui était timorée qui donne l'instruction, c'est Thelma.
Voilà, c'est Thelma qui donne l'instruction alors qu'on l'aurait attendu de Louise. Et c'est là qu'on voit qu'il y a eu cette fusion des esprits au cours du film. Et elle s'embrasse sur la bouche à la fin, comme pour symboliser le fait qu'elles sont devenues un seul être.
Et il y a des choses très belles juste avant ça, c'est que il y a un mélange à la fois de forfanterie et de peur, surtout de la part de Louise. Et il y a un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, une scène où elle conduit la voiture, parce qu'on voit ça assez souvent, l'une ou l'autre conduit la voiture, et Louise fume une cigarette et on voit sa main trembler. Or, oui, ça a l'air de la fille la plus costaude au départ et la plus... Et il y a ça.
Oui, on voit ses fêlures et on voit à quel point c'est quelqu'un de vulnérable, en fin de compte, dans la deuxième partie. Et il faut dire qu'une des grandes réussites du film, c'est que c'est magnifiquement incarné. Ce sont vraiment deux très belles interprétations parce que elles ont toutes ces nuances et le côté un peu arrogant, presque dominateur de Louise au départ aurait pu être quelque chose qui la rendait antipathique, mais la vulnérabilité arrive juste à temps pour empêcher ça.
Alors tout de même, il y a une question qu'on peut peut-être résoudre par le fait qu'elles sont sur la route, qu'elles fuient, que ça va vite, vous l'avez dit, c'est en 72 heures je crois, c'est la question du remords du meurtre. Il n'apparaît à aucun moment.
Non, et à vrai dire, on a l'impression que c'est vraiment un acte de libération. Elle, à aucun moment, il y a l'idée de préméditation, parce que tout s'est passé dans l'urgence, il y avait une agression qui était sur le point de se commettre, Louise intervient pour défendre son amie, donc on peut pas se dire c'est quelque chose de froidement calculé. Donc c'est pas la question de la préméditation, mais c'est clairement un acte qui est symbolique. C'est s'affranchir de tous les hommes qui leur ont fait subir des avanies dans leur vie.
Oui, bien sûr, mais ça n'est pas un film symbolique, c'est un film réaliste. Est-ce que ça vous paraît pas bizarre que Ridley Scott ne l'ait pas fait, ou qu'une de ces deux femmes par elle-même ne l'ait pas fait, c'est-à-dire poser à un moment, se dire « on a tué un homme ».
Oui, je pense que là, on touche à des conventions de films de genre, où aucun prix vraiment n'est accordé plus que ça à la vie humaine. Et d'ailleurs, j'ai trouvé assez comique, toujours en revoyant le film, le fait que la police semble beaucoup plus affolée par les hold-up que commet le tandem de Thelma et Louise que par le meurtre. Et c'est comme s'il faut vraiment les arrêter une fois qu'on se rend compte qu'elles sont des menaces économiques plutôt que...
Oui, c'est vrai. Alors, je parlais de l'esthétique parfois appuyée du film. Pour rendre justice à Ridley Scott, je trouve que quelque chose qui sert très bien le film, c'est la musique.
Oui.
Qui est insistante, mais de façon très fine.
Oui, c'est une musique de Hans Zimmer, qui est un compositeur allemand qui a beaucoup écrit pour les films hollywoodiens et notamment pour Ridley Scott. Et elle est particulièrement bien utilisée, alors même que Ridley Scott est un cinéaste qui peut abuser de la musique. Mais là, c'est pas du tout le cas.
Oui, il y a un très beau passage où elles sont toutes les deux toujours en train de conduire et où on entend la chanson de Marianne Faithfull de Ballad of Lucy Jordan et qui est tout à fait appropriée puisque c'est l'histoire d'une femme qui, elle a 37 ans, mais se rend compte qu'elle a raté sa vie.
Oui, il y a une belle utilisation des chansons, d'un climat un peu de cet ouest de l'Amérique, des chansons du country. Ça va avec cet imaginaire aussi. Il y a quand même dans la démarche de Ridley Scott l'idée qu'on va s'emparer de l'ouest américain. Lui est anglais, hein, donc c'est pas du tout un cinéaste américain qui filme l'Amérique, c'est un étranger. Et il s'empare de cet ouest qui a été si filmé, notamment dans les westerns, pour en faire un territoire féminin, ce qui n'a jamais été fait. Donc c'est un peu une prise de pouvoir sur cette partie.
Ça n'a jamais été fait, pardon. Il y avait quand même les films, les westerns de Barbara Stanwyck avant, en noir et blanc, où c'était un personnage de femme forte.
C'était un personnage. La différence là, c'est qu'on est avec ce tandem, et donc on n'est pas dans l'idée d'une femme dans un monde d'hommes, on rentre dans un univers féminin.
Vous dites ouest, mais c'est aussi et presque plus, à mon avis, le sud.
Car c'est le
elles
sud-ouest.
Ont, il faut pas, oui, bien sûr, oui, mais oui. Elles ont l'accent du sud, c'est oui. Très marqué, et justement, je pense que c'est une histoire qui ne pouvait se passer que dans le sud. Non pas que tous les machos soient dans le sud, mais ce sud, à cette époque-là, on est dans les années 80, c'est l'apothéose de la banalité conservatrice en Amérique.
Oui, elles ont l'accent du sud, donc ça commence en Arkansas. Et en effet, il y a cette idée de la pauvreté ordinaire du sud, qui est quand même quelque chose qui a beaucoup nourri l'imaginaire américain, hein, y compris littéraire. Et qu'on retrouve là avec force. Et en effet, l'idée, c'est qu'elle cherche à aller au Mexique ensuite, hein, parce que dans l'idée qu'elle pourrait échapper à la police, etc. Mais donc, c'est ça leur trajet. Mais elles veulent aller au Mexique en évitant le Texas, qui est quasiment impossible. Donc, du coup, c'est une route qui ne fait pas tellement sens, si ce n'est qu'on traverse des paysages extraordinaires et que ça donne un souffle épique à ce road movie.
Nous allons maintenant entendre Les filles, c'est des garçons, Foxtrot, extrait de l'opérette Katie Boxer, composée par Gabaroche et Asselin. Elle est interprétée par Gaston Gabaroche et date de 1927. Les filles, c'est des garçons, des petits hommes, voilà ce qu'elles sont.
C'est assez décevant. Non plus de derrière et non plus de devant. Plus de néné, soit en poire, soit en pomme. Plus de cheveux, plus de mollets, rien en somme. La mode a proscrit son lule long du lait. Son cruel rabot a maintenant tout nivelé. Et l'on se dit, je suis acteur quand je suis dans le dodo. J'ai du goût pour les blanches comme les cabots. Les filles, c'est des garçons, de petits hommes, oui, voilà ce qu'elles sont. Elles n'ont plus si ni ça, aucune rondeur, non, le calme plat. Les bosses que nous aimons s'en sont allées, et l'on ne voit plus de monts ni de vallées.
Les Florence Colombani, Thelma et Louise, dont nous nous entretenons dans ce personnage en personne, est un film qui a provoqué le même genre de réaction que toutes les œuvres d'art qui contredisent des habitudes provoquent. Je pense par exemple à La haine de Mathieu Kassovitz, quelques années plus tard. Eh bien, Thelma et Louise, ça a consisté à dire c'est un film anti-homme. Le critique du New York Daily News a dit que c'était dégradant pour les hommes et je cite qu'il justifiait les attaques à main armée, l'homicide involontaire et la conduite en état d'ivresse. C'est à peu près aussi intelligent que de dire que Madame Bovary fait l'apologie du suicide.
Oui, absolument. C'est aussi le reproche qu'on fait de façon tout à fait classique à des films où il y a une série d'actes violents. Bonnie and Clyde a été un film extrêmement attaqué. Et en effet, on peut faire le parallèle avec Thelma et Louise. Par ailleurs, cette idée de haine des hommes, hein, c'est quelque chose qu'on reproche toujours aux œuvres qui ont une composante féministe. Et c'est évident que Callie Khoury, la scénariste de Thelma et Louise, a une démarche qu'on peut dire féministe dans le sens où elle cherche à mettre en avant d'abord des personnages féminins comme les piliers, les moteurs de l'action, et ensuite parce que elle déploie une vision du monde qui montre des femmes réduite par la société à une forme de désespoir et de tristesse ordinaire. Et ces héroïnes deviennent des héroïnes parce qu'elles s'arrachent à tout ça et qu'elles rejettent la place que les hommes leur ont donnée dans la société. Donc, dans ce sens, oui, c'est vraiment une œuvre féministe et qui attire des attaques anti-féministes.
Est-ce que vous ne pouvez pas envisager, on pourrait pas envisager que des féministes attaquent ce film comme n'étant pas assez féministe? Parce que d'une certaine façon, c'est une femme passive et l'autre, une femme qui tue un homme et elle fuit.
Oui, et on pourrait aussi dire que la fin, qui malgré tout, malgré l'arrêt sur image, est une fin tragique, puisque ça veut dire qu'il n'y a pas de porte de sortie pour ces femmes, eh bien la fin a quelque chose qui plombe totalement l'idée d'un combat féministe. En gros, si on rejette le patriarcat, ça finit dans le fossé, enfin si on fait des raccourcis très très grossiers. Mais c'est un film, mais comme toute œuvre intéressante, qui peut être attaquée des deux côtés. Et c'est donc bien ce qui fait ses qualités.
Au demeurant, dire que c'est un film anti-homme, tout le film démontre le contraire. Vous avez parlé du personnage d'Harvey Keitel. Évidemment, il y a le mari qui est un crétin, mais que je sache, ça existe. Et d'autre part, tout le long du film, il y a une bienveillance d'Harvey Keitel. Les hommes sont variés. Il y a à la fois des beaufs et des gens bien.
Je dirais même qu'il y a quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment vu comme ça, en tout cas dans le cinéma hollywoodien grand public, c'est l'érotisation d'un personnage masculin davantage que d'un personnage féminin. Et c'est la fameuse scène de Brad Pitt, hein, Brad Pitt qui n'était pas du tout célèbre à l'époque et qui joue...
Mais c'est son premier film,
c'est
je
son
crois.
Premier film. Il joue le rôle d'un autostoppeur qui plaît beaucoup à Thelma et avec qui elle passe la nuit et puis qui part avec l'argent de Thelma et Louise. Donc qui, en
à
effet,
cause d'une maladresse de Thelma, encore voilà, une fois, d'ailleurs.
Mais la scène d'amour est filmée avec un regard désirant pour le corps masculin d'une façon qui est assez surprenante et qui fait que tout de suite Brad Pitt devient
mais comment une tout le monde s'en souvient, parce que la façon dont il arrive avec son petit chapeau, son Stetson et ses jeans sur une musique de guitare sèche comme ça, c'est stupéfiant. Il est d'ailleurs très beau et très ouais. Et il joue très bien, mais effectivement enfin Thelma est quand même assez érotique.
Oui, bien sûr.
On peut pas dire que. Mais enfin, elle n'est pas dans la position d'érotisme.
Oui, et puis les deux corps sont traités avec le même intérêt par la caméra, ce qui est quand même rarissime.
C'est vrai. On pourrait dire aussi que si le film aurait peut-être été plus marquant ou aurait peut-être plus marqué s'il y avait eu un personnage de femme peau de vache, mettons. Parce que. Quand même, tous les personnages de femmes sont ou sympathiques, ou cool, ou neutres. Et peut-être que, après tout, on aurait pu imaginer une serveuse de bar détestant Thelma parce qu'elle est jolie, ou quelque chose comme ça.
Mais c'est un film, vous disiez à juste titre que c'est un film réaliste. C'est vrai, mais son défaut, c'est que c'est un film qui se veut réaliste, mais qui ne l'est pas. Dans l'écriture, il y a quand même quelque chose qui est bien pratique, qui arrange les contours de la réalité, à la fois la façon dont l'enquête d'Harvey Keitel est menée, le rapport entre Thelma et Louise, qui ne laisse quasiment pas la place à la tension. Elles sont quand même constamment en train de se déclarer à quel point elles s'aiment, comme elles sont de bonnes amies l'une pour l'autre. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être un petit manque d'aspérité là qui fait qu'on n'est pas tout à fait dans le chef-d'œuvre, mais c'est un film très intéressant, mais qui prend pas toute l'ampleur qu'il aurait pu, peut-être.
Alors, je ne veux pas, comme font certains, demander à des œuvres d'art de faire ce qu'elle n'avait pas l'intention de faire, mais il est frappant, ça se passe dans le Sud, que ça soit deux personnages de blanches. Je pense que c'est une histoire qui serait impossible avec des noirs.
Ah oui, ne serait-ce que parce que la police serait intervenue beaucoup plus tôt dans l'histoire. Alors ça, c'est sûr que on y pense d'ailleurs pas mal, hein, parce que la police est très bienveillante très longtemps avec Thelma et Louise, ce qui n'arriverait pas à des personnages noirs. Et d'ailleurs, c'est un film où on voit que des blancs, sauf à la fin, où il y a un cycliste qui avait à dreadlocks qui passe par là de façon totalement inopinée. Et d'ailleurs, c'est un détail assez drôle et surprenant que ce cycliste sur ces routes monumentales où on croise que des voitures. Mais oui, c'est là aussi une vision très partielle d'une réalité locale.
On a tendance, le temps passant, à croire que l'évolution est linéaire et qu'on pourrait croire que Thelma et Louise est arrivé comme un film de libération. Mais c'est oublié qu'aux États-Unis, il y a eu le code Hays qui a beaucoup changé les choses. Et qu'avant ça, il y avait des films beaucoup plus libres.
Alors, avant le code Hays, qui est ce système d'autocensure par les studios mis en place au début des années 30, donc un système qui évite aux studios que les films soient revus et corrigés par l'État, et donc où les studios s'interdisent trop d'allusions franches à la sexualité, trop de violence. Mais enfin, c'est surtout le sexe quand même qui est en ligne de mire. Donc le cinéma change beaucoup à ce moment-là. C'est vrai que dans les films qu'on appelle du pré-code, et que Warner a en partie ressorti l'été dernier avec des films magnifiques, on a des films très francs sur ces questions, très surprenants souvent, et donc avec des rôles de femmes extraordinaires, des personnages notamment joués par Barbara Stanwyck, qui était la grande star de ces films, mais aussi Jean Harlow.
Et dans la comédie Mae West, qui était...
Mae West, exactement. Il y avait vraiment des rôles étonnants pour les actrices, parce que avec beaucoup de facettes, et aussi des personnages qui pouvaient être antipathiques, qui pouvaient avoir du pouvoir, toutes sortes de choses qui tendent à s'effacer ensuite. Cela dit, moi, je défendrais aussi les films post-code, parce que le fait d'avoir des contraintes stimule souvent la créativité des réalisateurs et même des acteurs. Et donc, il y a beaucoup de films passionnants, de rôles de femmes passionnants. Il suffit de voir la carrière de Catherine Hepburn pour voir que dans les années 30-40, on fait encore des films où les femmes ont des rôles tout à fait notables et complexes. Simplement, ce qui se passe et qui fait qu'on voit Thelma et Louise comme une renaissance, c'est que les années 70-80 et les années du nouvel Hollywood, comme on dit, c'est-à-dire les Spielberg, Coppola, Friedkin, c'est une catastrophe pour les
catastrophe.
Femmes. Là, on est vraiment dans une ère macho
des
et masculine.
Macho. Enfin, Scorsese, c'est inouï, les personnages de femmes, c'est néant. Enfin, néant. Jusqu'à Casino, peut-être.
Casino et le temps de l'innocence, voilà. Sauf sa carrière, voilà. De ce point de vue.
Voilà.
Mais sinon, c'est terrible. Enfin, y a vraiment...
Et Spielberg, c'est la mère de famille au mieux. Quoi.
Voilà.
Enfin, y a au fond un conservatisme dans ces gens qui ont donné des coups de pied dans le vieux cinéma qui est...
Oui, et quelque chose d'adolescent aussi dans la vision du monde. Hein. Et le cinéma de George Lucas,
oh là là.
Là, avec la princesse Leia, on est au comble de l'objectivation du personnage féminin et de sa non-existence en tant que sujet. Donc c'est pour ça que Thelma et Louise fait cet effet. C'est parce que c'est un film qui arrive après 20 ans quand même de disette du point de vue des femmes.
Florence Colombani, que vous ont appris les personnages de Thelma et Louise ?
Alors, je trouve que c'est pas des personnages qui apprennent quelque chose, c'est des personnages qui donnent envie de quelque chose et qui donnent envie de s'affranchir des règles, qui donnent envie de voyager et qui donnent envie d'une certaine liberté. Mais donc de trouver ça en soi. Et c'est aussi la beauté du film, c'est d'inviter à une sorte de voyage intérieur et de libération des normes et des attentes. Et c'est aussi des personnages qui donnent envie de cinéma, parce que c'est des personnages vraiment de cinéma. C'est des personnages qu'on voit comme des héroïnes au sens très fort, et tout ça fait la beauté des deux personnages.
C'était Personnage en personne, le 125e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Psyché inventé par Apulée dans Les Métamorphoses.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attaché de production Meryl Moneghetti, prise de son Cédric Châtelus. Dans un instant, Mathias Sénard et la salle des machines.